Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour à tous.
À la une de la presse française, il n'y a pas que le Covid dans la vie.
Oui, le virus est dans tous les esprits, mais il y a tout de même d'autres dossiers sur la table. Et l'Élysée, critiquée pour sa gestion de l'épidémie, y travaille mieux. Elle veut le montrer, car Emmanuel Macron est dans la nasse politique de la crise sanitaire, nous dit Le Monde. Un séminaire gouvernemental doit établir aujourd'hui l'agenda des dossiers non liés à l'épidémie pour les 6 mois à venir. Oui, Emmanuel Macron veut s'extirper de la crise du Covid-19 et le temps est compté avant la présidentielle de 2022. Il faut malgré tout valoriser le bilan du chef de l'État, explique Le Monde. Surtout, rappelle Libération, surtout quand le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a balancé dans la presse que peu de choses auront été faites en 5 ans.
Emmanuel Macron veut donc défendre son image de réformateur.
L'Élysée cherche à éviter le procès en immobilisme, pense Le Figaro. Une sorte de « en même temps » acrobatique qui résume le menu de ce séminaire gouvernemental pour Libération. Le journal croit savoir que le président privilégie l'environnement et la laïcité, deux textes déjà dans les tuyaux, quand d'autres chantiers seront abandonnés.
Et pour faire briller son bilan, le gouvernement lance une opération transparence.
Un baromètre de l'action publique doit être publié aujourd'hui. Le Parisien se l'est procuré et il montre en pourcentage le niveau de réalisation de certaines promesses. Le plus haut, 100%, le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Le plus bas, 8% pour le déploiement du pass culture, mais le Parisien s'interroge à juste titre. Comment les politiques passées au crible ont-elles été sélectionnées? Quid du chômage? Et en matière d'écologie, par exemple, pourquoi ne pas faire figurer les énergies renouvelables ou la fermeture des centrales à charbon?
Il y a aussi le chantier de l'économie et l'inquiétude de Bruno Le Maire.
Inquiétude pour la reprise en 2021, peut-on lire dans les Échos. Le ministre de l'économie doute d'atteindre une croissance de 6% cette année. C'est un défi, selon lui. Et il y a aussi le chantier du chômage. Les Échos reviennent sur des propositions choc du Conseil d'analyse économique qui conseille Matignon et le Premier ministre. Dans une note publiée hier, il estime que les partenaires sociaux jouent un rôle de façade dans l'assurance chômage et suggère de les déposséder du débat. Il suggère aussi d'ajuster l'indemnisation du chômage sur le niveau de croissance. En somme, si l'économie est dans le vert, l'indemnisation baisserait pour encourager le travail. À l'inverse, l'économie dans le rouge, moins de travail disponible et l'indemnité monterait donc.
Et qu'on se rassure, la Startup Nation, elle, se porte bien.
Oui, les Échos mettent en avant les records de la French Tech, 5,4 milliards d'euros levés en 2020 pour les startups françaises. Une performance supérieure à celle de l'Allemagne. Cocorico, Grégory, mais pas trop. Ce n'est rien face à la puissance chinoise à laquelle Le Monde consacre une série d'enquêtes et de reportages cette semaine. La Chine, oui, tire son épingle du jeu sur le plan économique. En passe de devenir un pays dit développé, son PIB devrait dépasser celui des États-Unis à l'horizon 2028.
Dans la presse également ce matin, un dossier qui divise de plus en plus les Français, l'intervention militaire au Sahel.
Barkhane, à l'heure du bilan et de la remise en cause, c'est la une de La Croix qui consacre un dossier complet à l'opération militaire 8 ans après le lancement de Serval devenu Barkhane. C'est une déception vue du Mali, note le quotidien catholique, mais aussi vue de France désormais. Pour la première fois, une majorité de Français désapprouvent cette présence au Mali. 51% d'entre eux y sont défavorables, selon un sondage IFOP. Défavorables, comme le chercheur Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui publie une tribune dans les colonnes de Libération. Pour lui aussi, la France au Sahel, il est temps de partir.
Libération tire ce matin un autre bilan, 10 ans après le printemps arabe.
L'espoir confisqué, titre Libé, en janvier 2011. Le dictateur Ben Ali était poussé vers la sortie par le peuple tunisien, suivi par Moubarak en Égypte. Une décennie plus tard, ce vent de liberté dans les pays arabes s'est transformé en douche froide. Des libérations donnent à voir cet espoir confisqué dans les yeux de Rachid Fettini, par exemple, 57 ans, entrepreneur à Sidi Bouzid, en Tunisie après 2011. C'est tout le monde qui était corrompu, dit-il. Ou dans les mots de cet Égyptien qui souhaite rester anonyme, Grégory, même sous Nasser et Moubarak, ce n'était pas aussi répressif, déplore-t-il. Après le printemps, viennent normalement les beaux jours de l'été, mais en matière de révolution, on le voit, il peut aussi laisser place à un automne durable.
Merci Sébastien Duhamel.